Parler du sabbat aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a discuté hier entre les responsables, les pasteurs, les anciens, les diacres, dans une session qu'on a eue hier. Et on va poursuivre ce matin parce que c'est vraiment un sujet bénissant pour tout le monde. Alors, commençons par un mot de prière et puis après ça, on va lire le texte. Vous pouvez chercher, si vous avez votre Bible, Marc chapitre 2 au verset 13. Marc chapitre 2 à partir du verset 13. Prions. Je me suis trompé peut-être. C'est le verset 23, pas le verset 13. Marc chapitre 2. Et le verset 23, excusez-moi, petite erreur sur le PowerPoint, du verset 23 au verset 27. Prions. Seigneur Dieu, merci pour le fait qu'on a chanté que Jésus, tu es le centre. Et oui, nous t'avons choisi. Oui, Jésus, nous voulons que tu sois le centre et nous voulons que ça change notre vie. Puis que ça transparaisse dans le monde autour de nous. Nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Jésus, tu as des choses à nous enseigner ce matin sur la question du sabbat. Dirige-nous, dirige-moi, Seigneur, pour parler selon toi. Et à chacun d'écouter, puis de se poser la question, qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur, ce matin? Nous te remettons à ce moment au nom de Christ. Amen. On y va. Marc 2, à partir du verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il était dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiathar. Il a mangé des pains consacrés qu'il n'est pas permis sinon qu'aux prêtres de manger. » Et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors, merci en passant pour vos bons souhaits et prières par rapport à mes vacances, aux vacances de Cheryl et moi. Nous sommes partis dans l'Ouest pour un peu plus que deux semaines. Ça a été vraiment béni. Merci beaucoup. Des temps de repos, temps de réjouissance et de délectation dans des belles choses de la vie. On a vu des amis. On a même vu les Tracis à un moment donné et été bénis par le beau mariage de Mathieu et Carly. On a vu d'autres amis aussi. On a profité de la nature. Et c'est assez magnifique, l'Ouest canadien, il faut le dire. Du repos, comme j'ai dit, le temps de faire des siestes, le temps de prendre son temps. Et on a pris plaisir dans les dons de Dieu, même des petites choses. C'est quelque chose qui est merveilleux en vacances, des fois, c'est que peut-être durant l'année, on est tellement occupé, on va moins remarquer peut-être des petites choses, comme par exemple les oiseaux et les fleurs sauvages. Et là, on porte attention aux détails et ça nous amenait à remercier Dieu. Puis, à un certain moment, on a commencé à réfléchir sur l'année qu'on a passée. et parler un peu, prier, et puis réfléchir sur l'avenir. Les vacances, ça fait ça aussi. Ça nous permet de faire un retour sur notre vie, un regard vers l'avenir. Et puis, bien sûr, il y a eu des moments de prière et d'adoration. On a été dans des églises, ça nous a fait du bien, mais aussi entre nous, on a pu passer des moments de prière et c'était bénissant. J'ai réalisé toutes ces activités qui ont béni nos vacances, on les trouve dans les principes de la Bible. On les retrouve dans la loi de Dieu. Les lois que Dieu nous donne, et là je parle notamment de l'Ancien Testament, mais pas seulement, mais c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour notre épanouissement, parce que Dieu nous aime. Et ces bénédictions que je viens de dire, que j'ai vécues dans les vacances, on les retrouve dans la loi de Dieu concernant le sabbat. Alors, voici le commandement que je vais vous lire. Il est dans Exode chapitre 20. Ça, c'est dans les 10 commandements que Dieu donne deux fois. En tout cas, il y a deux fois qu'on voit le rapport de ce décalogue, de ce 10 commandements. Et ça, c'est le premier ici dans Exode 20. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Cheryl me disait ce matin que Dieu a créé l'homme le 6e jour, et le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire que le premier jour de l'homme, s'il a été créé le 6e jour, vers la fin de la journée, ce qui semble être le cas, sa première journée, c'est le sabbat, c'est le jour de repos. Alors, c'est intéressant que l'humanité commence dans le repos, puis il va commencer à travailler après. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est le 6e jour qui a été créé. Mais voilà, ça c'est le commandement du sabbat qui est vraiment important. Il est dans le résumé des 10 commandements. Et puis, il y a plusieurs autres textes dans l'Ancien Testament où on revient sur le sabbat. Souvent, ça va être les prophètes qui vont le faire, qui vont dire à quel point c'est important. Et ça, ces autres textes vont développer le côté joyeux, le côté bienfaisant, le côté festif même du bien-être et qui développe la relation entre l'être humain et son Dieu. C'est un jour assez spécial, le sabbat, dans le plan de Dieu. Et pour moi, mes vacances 2019, puis je pense que c'est le cas pour Cheryl, mon épouse également, mes vacances ont été particulièrement bienfaisantes à cause d'une autre découverte que j'ai faite cette année et depuis quelques années, c'est que à chaque semaine, je fais tout mon possible pour me donner un sabbat, mais carrément un sabbat de 24 heures. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans le passé. Ça a comme pris le bord. C'est difficile pour moi, ce qu'on pourrait appeler cette discipline spirituelle de recevoir le cadeau du sabbat dans ma vie. Mais depuis que je suis pasteur, j'ai comme repris vie là-dedans. Et en fait, tous les lundis, je prends une journée de congé, vous le savez, parce que je vous demande de ne pas m'appeler. Enfin, si vous m'appelez, vous pouvez parler à mon répondeur, aucun problème. Ça, c'est comme si je me pratiquais à chaque semaine avec ce jour de sabbat pour être un petit peu en vacances à chaque semaine. Et puis, inversement, j'ai vécu mes vacances un peu comme un sabbat. Donc, quelque chose où je connectais avec Dieu d'une manière spéciale. Et j'apprenais à voir Dieu à travers le temps, le temps en dehors du travail. C'était vraiment merveilleux comme temps. Et donc, je pense que dans la manière de vivre d'aujourd'hui, qui est, on va dire, non chrétienne, dans la façon séculière ou laïque de voir la vie, ben, les congés et les vacances, c'est plus des pauses entre des périodes de travail. C'est quasiment récupérer pour mieux travailler après. Et parfois, l'identité des gens, c'est vraiment leur travail. Alors que dans la Bible, c'est un peu différent. C'est vraiment le sabbat dans la Bible où les croyants redécouvrent leur vraie identité en Dieu. Et vous savez, avant d'en arriver au texte où Jésus entre en controverse sur le sabbat, parce que je n'ai pas oublié le texte biblique que je vous ai lu, mais dans la pratique chrétienne, c'est important juste de savoir historiquement que ça a presque toujours été quelque chose de naturel et d'important pour les chrétiens, de toutes les traditions, de pratiquer quelque chose comme le sabbat à chaque semaine. Et ça a été perdu dans beaucoup de milieux, mais il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être une cinquantaine d'années, grosso modo, que ça a vraiment pris le bord dans beaucoup de milieux, ce principe du sabbat qu'on appelait au Québec le jour du Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. J'ai un ami très comique qui est devenu un chrétien évangélique. Il était jeune adulte et ses parents étaient des catholiques pratiquants. Et lui était un peu un original. Il s'appelle Alain. Et puis, c'était un gars un peu paresseux, en fait. Alors, sa mère, qui était assez libre dans sa manière de voir la vie, lui dit, « Alain, il faudrait peut-être que tu ailles tondre la pelouse. » Puis lui, de lui répondre, il avait trouvé la bonne réponse, « Mais maman, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. » Et elle lui a répondu, « Ben, pour toi, c'est pas mal le jour du Seigneur à chaque jour. Va tondre la pelouse. » Bon. Mais c'est tout ça pour dire que c'était dans la culture, la tradition, que le jour du Seigneur, c'était un jour spécial dans la semaine. Et c'était considéré comme bienfaisant de faire ça différent. Malheureusement, dans certains milieux, c'est devenu quelque chose de très légaliste. Et on le voit chez les pharisiens dans l'histoire qu'on a lue. Mais ce genre de légalisme a vraiment fait du mal au sabbat, même dans les milieux évangéliques, et qui fait que il y a eu un trop-plein, il y a eu une réaction contre. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne le pratique plus dans beaucoup de milieux. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que la vision séculière, la vision laïque du temps est entrée dans nos vies. Parce qu'on travaille tous dans des milieux où il y a des chrétiens et des non-chrétiens. On est tous dans le milieu du travail où est-ce que tout le temps est pareil. toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures. C'est des occasions de produire plus, de faire plus d'argent. Et je crois qu'il y en a certains d'entre nous qui sont aux prises avec ça tout le temps. Et finalement, même les pasteurs, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sont en train de s'inquiéter. Est-ce que je travaille assez? Et ce n'est pas ça la vision du temps que Dieu nous a donnée quand il nous a créés. Mes frères et sœurs, la Bible est là pour nous dire que la vie est belle et qu'elle peut être pleine de trésors. Pour cela, nous avons besoin du sabbat. C'est un cadeau de Dieu et il nous l'a donné pour nous enseigner à être heureux et en santé. Revenons un peu à cet épisode de la Bible qu'on a lu, cet épisode dans la vie de Jésus. Ce que Jésus dit à la fin est significatif. Et on voit que Jésus valorise le sabbat, même s'il entre en conflit avec des chefs religieux qui font du mal avec le sabbat. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et on peut traduire plus littéralement, quand on regarde le texte original, le sabbat existe pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En gros, c'est la même chose, mais c'est encore plus fort presque. C'est l'idée, Dieu nous a donné le sabbat comme un cadeau et ça va nous aider parce que c'est sûr qu'à notre époque de travail et de consommation à l'extrême, ça, c'est difficile de le pratiquer. Mais on a un cadeau dont on peut profiter et c'est dans ce sens-là qu'on va réapprocher le sabbat ce matin. Ce à quoi Jésus s'oppose, ce n'est pas le cadeau de Dieu lui-même, mais la manière que le cadeau est tordu par le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est une vision religieuse où on a peur de Dieu. On a peur que Dieu va nous juger, nous condamner, et donc, on se protège. On se donne des lois pour se protéger, mais c'est des fausses lois. Et on a peur des autres. Quand on est dans un milieu légaliste, et parfois les églises tombent dans ce problème, c'est qu'on se dit, je veux me protéger de la punition de Dieu par mes erreurs, mais aussi par tes erreurs. Alors, je vais commencer à te dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Vous me suivez? Et Jésus détestait le légalisme parce que tellement il connaissait l'amour du Père pour les humains et comment il voulait qu'ils s'épanouissent. Jésus, il voyait un malade le sabbat, il n'hésitait pas de le guérir. Il disait à ses disciples, venez, on va traverser le champ de blé, on va aller à telle place pour aller célébrer peut-être dans une synagogue, que sais-je où il allait. Je crois que c'était une synagogue, parce que l'épisode après, ils sont dans une synagogue. Et ils ont faim, ils prennent des épis pour manger. Puis là, il y a des pharisiens qui leur disent, « Oui, mais là, vous brisez nos commandements pour nous protéger contre la condamnation de Dieu. » Vous voyez comment le légalisme va à l'encontre de l'Esprit de Jésus. Et le légalisme détruit le sabbat, ce n'est pas le sabbat lui-même qui est mauvais. Le sabbat qui est de prendre un temps spécial mis à part pour arrêter, se reposer, profiter des choses que Dieu nous donne et l'adorer. Le sabbat a été fait pour toi. Ce que Jésus enseigne par rapport au sabbat, c'est la même règle, en fait, que pour tous les dons que Dieu nous donne. Il y a des problèmes au niveau de la nourriture dont parle le Nouveau Testament. Il y en a qui sont végétariens, il y en a qui ne le sont pas. On pourrait débattre de beaucoup de sujets. Peut-être les boissons qui contiennent l'alcool, on pourrait apporter le même principe. C'est que la vie avec Christ, c'est comme un bateau. Puis justement, Cheryl et moi, on était sur un navire, sur un bateau. On est monté jusqu'au début de l'Alaska. On a vraiment eu de belles vacances. Et on a passé par des passages entre des îles. Et la vie chrétienne, c'est un peu ça. Un navire qui doit naviguer prudemment entre les écueils, d'un côté, le légalisme, et l'autre côté, le laxisme spirituel. Le légalisme, donc, détruire les autres et soi-même par le jugement, en oubliant que seulement c'est seulement Dieu qui juge, n'est-ce pas? Mais le laxisme, ça peut nous détruire aussi. C'est quoi le laxisme? C'est détruire les autres et soi-même en laissant libre cours à mes désirs égoïstes, les désirs de la chair, et retomber sous l'esclavage du péché. Donc, c'est comme ton bateau, là, ou le bateau de Christ dans lequel tu as embarqué, lui va t'aider à passer dans le juste passage, qui évite le légalisme d'une part, mais qui surmonte le laxisme. Et c'est important. C'est important de voir qu'il y a comme un équilibre, il y a comme un passage à trouver. Donc, qu'est-ce que ça prend pour trouver ce passage? Eh bien, c'est cette dernière affirmation de l'histoire. Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc, on pense que c'est Jésus lui-même qui a dit ça aux pharisiens à la fin de ce qu'il disait. Il y en a qui pensent que c'est le narrateur. Peu importe, c'est la vérité, c'est que le Fils de l'homme, Jésus, est le Seigneur même du sabbat. Jésus, il dit, « Moi, je vais te montrer. Viens à moi. Donne-moi ta vie. Suis-moi comme ton maître. Suis-moi. Je vais t'apprendre à vivre le sabbat, le repos de Dieu, et ça va être ton principe de vie. » Donc, là où il faut aller plus loin, c'est dire, même si pour la plupart d'entre nous, et je dirais que j'en fais partie, peut-être que toi aussi, en fait, j'encourage tout le monde à essayer, de prendre une période à chaque semaine, dire, je vais vivre un sabbat. Mais juste de réaliser que le sabbat, c'est plus qu'une journée. C'est beaucoup plus qu'une journée, c'est une manière de vivre. Et c'est une manière de vivre en Jésus-Christ. Hébreux 4 nous dit que quand nous recevons Christ, nous entrons dans le vrai sabbat, le vrai repos de Dieu. Christ est notre sabbat. Amen. Amen. Donc, c'est quelque chose de plus gros. Autrement dit, le sabbat des Juifs, qui est quelque chose de très beau, c'est un signe, une prémonition, un type de Jésus qui est un sabbat global. En lui, nous nous reposons complètement, même si on a du travail à faire avec lui. Entrons dans le vrai sabbat de Dieu, nous dit Hébreux chapitre 4. Le sabbat, c'est une manière de connecter avec Dieu. Et vous savez, quelqu'un qui vit dans le sabbat de Christ, les gens le remarquent. Puis c'est un peu ça le but. C'est pour ça que, vous savez, Paul, qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens? C'est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je pense que quelqu'un qui pratique le sabbat, quelqu'un qui même vit dans ce repos de Dieu tout le temps, eh bien, va s'adoucir dans un monde qui est dur, va être reposé dans un monde qui ne l'est pas, va être à l'écoute dans un monde qui n'a pas le temps. Des fois, je m'inquiète de qu'est-ce que mon voisin Bob pense de moi. C'est tellement drôle parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Puis, lui, quand il est dehors, parce que lui, il ne va pas à l'église, alors il se repose. Mais des fois, il est sur sa véranda en avant, il se repose. Puis, qu'est-ce qu'il doit penser quand il me voit en train de courir en ma voiture à 8h45 le dimanche matin avec des sacs, un sac à dos? Il doit se dire, mais c'est quoi cette vie-là? Il me semble que ça serait beaucoup mieux que Marc il se repose comme moi le dimanche matin. Mais tout ça, ça me fait poser la question, est-ce que ma douceur, est-ce qu'elle est visible? Est-ce que je la vis moi-même? Mais le sabbat est en train de m'aider à que Christ prenne racine en moi. Et voici un autre verset qui résume toute l'idée du sabbat. Et pour les Juifs, pour l'Ancien Testament et pour nous dans la Nouvelle Alliance, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est assez intéressant que autant quand on a parlé de l'Apocalypse, c'est comme si... la fin approche, il faut qu'on se dépêche pour servir Dieu. Autant le Seigneur dit non, pour vraiment être utile pour moi dans la fin des temps, il faut que vous soyez doux, il faut que vous soyez calme et serein dans un monde qui va commencer à paniquer ou peut-être qui ne panique pas encore, mais qui ne sait pas ce qui s'en vient. Je voulais aussi rappeler que j'ai découvert, comme hier soir, en préparant, je me suis souvenu que Michel Hull avait parlé du repos de Dieu il y a plusieurs années dans des sermons, et il a relié ça au sabbat. Et voilà les quatre principes que tu avais soulevés dans cet enseignement, Michel, qui viennent... quand même très confirmé ce que je suis en train de dire sur Christ, notre sabbat. Premièrement, un chrétien qui vit dans le repos de Dieu ou une chrétienne sanctifie le moment présent. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est capable d'arrêter et goûter comment Dieu est bon. Troisièmement, il réalise la grâce non méritée dans chaque situation, même dans les interruptions, puis les « bad luck », comme on dit en québécois, les contretemps. Quelqu'un qui vit dans le repos de Dieu est même capable de réaliser qu'il y a une grâce là-dedans. Et finalement, le quatrième, cesser le nécessaire, saisir l'essentiel. Amen. Ceux qui pratiquent le culte personnel de quotidien, et je le pratique aussi, et là aussi j'ai mes joies et mes luttes, vont quand même faire un lien et se dire c'est comme un mini sabbat à chaque jour où on revit ces mêmes cadeaux de Dieu. Arrêter, se reposer, prendre plaisir, et particulièrement dans la Bible, mais ça peut être dans d'autres dons de Dieu. Et finalement, l'adoration. Alors qu'avec les pharisiens, Jésus s'en prenait au légalisme en disant, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas été créé pour être comme emprisonné dans un système qui s'appelle sabbat. Jésus, il dit, le sabbat existe pour toi. C'est un cadeau que je te donne, prophétisant. Et je crois que nous, on a peut-être davantage le problème inverse que les pharisiens. Nous, les chrétiens du 21e siècle en Occident, c'est qu'on est tiré vers le laxisme sur cette question. On néglige le cadeau. Est-ce que nous nous laissons aller à une existence sans période sacrée qui nous permette de reconnecter avec Dieu, avec son peuple, avec nous-mêmes? Un temps sans repos divin. Puis est-ce qu'à la longue, ça ne nous affaiblit pas en tant que chrétiens? Est-ce qu'en tant qu'Église, et là je mets au pluriel, mais évidemment la question s'applique à l'Oasis, est-ce qu'on, malgré qu'on développe peut-être des programmes et peut-être une croissance numérique, mais est-ce qu'on ne s'affaiblit pas en même temps, parfois, souvent, parce qu'on devient tellement occupé? Il faut qu'on soit enraciné et solide pour affronter les tempêtes qui s'en viennent. Et c'est là où nous devons aller plus loin dans l'intimité avec Dieu. Si tu te sens interpellé par mon message ce matin, n'oublie pas, c'est une bonne nouvelle. Donc, si tu sens que tu dois te repentir, fais-le dans la joie, parce que Dieu te donne un cadeau. Ah, donc, dis-toi, je vais faire un travail, je vais, Seigneur, m'engager pour en profiter, pour aller plus profond avec toi. Alors, si vous dites, ben moi, c'est le culte personnel du matin ou de chaque jour que je veux travailler en ce moment, c'est correct. Moi, je veux quand même t'inviter à essayer le sabbat. Donc, de te donner, premièrement, de prendre un risque d'un temps à chaque semaine qui est spécial. Et pour beaucoup de chrétiens, ça va être le dimanche. De dire, mais moi, je vais prendre le dimanche, peut-être un 24 heures complet, commencer le samedi soir, terminer le dimanche après-midi, où ça va être un peu spécial. Je vais aller à l'église, mais je vais aussi cesser certaines activités qui me fatiguent parce qu'elles font partie de mon travail, de mon quotidien. Et puis peut-être me concentrer sur d'autres choses qui me font du bien. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez essayer en famille. Si 24 heures, c'est trop, peut-être essaye 12 heures ou même 6. C'est le principe. C'est le principe qu'il faut redécouvrir. Surtout, ne nous jugeons pas les uns les autres. C'est ça que Jésus n'aime pas. Librement, redécouvre le don que Dieu te donne du temps sacré avec lui. Deuxièmement, attends-toi que ça va être difficile. Donc, ce n'est pas parce que tu as un défi qu'il faut arrêter, mais plutôt prie, parlons-en entre nous. C'est sûr qu'on va à contre-courant dans notre monde. Ce n'est pas facile. Et on a nos propres habitudes aussi. Je sais que on est programmé pour se dire, bon, mais j'ai du temps en dehors de ma job payée, je vais faire mes jobs non payés, comme tondre le gazon, comme faire la lessive, comme nettoyer la maison. C'est pas facile, hein? Mais finalement, oui, c'est ça. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des défis. Attendez-vous à... Il faut expérimenter pour voir qu'est-ce qui marche pour toi. Et puis, attendez-vous aussi que vous aurez peut-être des opinions différentes dans la même famille. Alors, Cheryl et moi, on a parfois des discussions là-dessus. Cheryl trouve que tondre le gazon, c'est un très bon... Très bonne activité de sabbat pour moi. Non, je... Et c'est vrai que ça peut être détendant, ça peut être une occasion de connecter avec le Seigneur. Moi, j'ai un ami, un collègue, pasteur, lui, il a un jardin. Il a un jardin, il cultive les tomates et ça fait partie de son sabbat, même pas juste pendant son jour de congé, mais toute la semaine. Il y en a qui diront, mais ça, c'est du travail, mais pas pour lui. Troisième point d'application, parlons sabbat. Donc, ma prière, c'est qu'on puisse parler de cela entre nous, un peu comme on parle de prière ou qu'on parle de lecture de la Bible. Parlons du sabbat, encourageons-nous mutuellement dans la liberté et la grâce. Pourquoi? Parce qu'on veut s'encourager mutuellement à aller plus profond avec Christ. Amen. Donc, voilà, je lance le sujet du sabbat. Je vous invite à réfléchir, même à commencer. Et disons maintenant, j'inviterai l'équipe de louange. Soyons dans l'adoration, soyons remerciants à Dieu ce matin pour les cadeaux qu'il nous donne. Le sabbat comme enseignement, oui, mais Christ qui est notre vrai sabbat. Célébrons-le maintenant. Amen.